comprendre le chapitre 11 qu'on va commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem. On va d'abord faire un petit résumé rapide de la fin du chapitre 10. Le dernier cours, on n'a pas terminé le chapitre 10, il nous manquait quelques lignes. Et pour comprendre la suite, on est obligé d'expliquer au moins à l'oral ce dont il était question à la fin du chapitre 10. Ouais. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de... Si on pouvait résumer en un mot le cours la semaine dernière, c'était « step by step », étape par étape. Un cours très rassurant, dans lequel on a expliqué la chose suivante. On a expliqué qu'on doit savoir que même si on a du mal à avancer comme des tzadikim, même si on sent qu'on est très 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 loin du compte, en vérité, il te dit, l'Admor HaZaken, il te dit, on te demande pas d'inventer la roue. On te demande d'utiliser des choses que tu fais déjà. Comme ta prière, tes téfilines, ton Shabbat, tes fêtes. Des choses que tu fais déjà. Hein? Non. C'est pas moi, là. Prenez autre chose. Là-bas, ils sont là. On va te prendre des choses que tu fais déjà. D'accord. Tiens, monsieur, vas-y, tenez. Voilà. Des choses que tu fais déjà. Et on va te montrer comment, dans ce que tu fais déjà, tu peux t'approcher d'Akadosh Baruch. Alors, on avait terminé, et c'est là la fin du chapitre précédent, dans lequel on a expliqué que, en vérité, dans notre génération, c'est très difficile de demander à une personne de retourner son cœur d'un instant à l'autre, de faire teshuvah et juste après faire la simra. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken avait parlé de l'importance, en tout cas à l'époque, du tikkun chatzot. Tikkun Chatzot, c'est un moment dans la nuit, à minuit, dans lequel les gens pieux font teshuvah, ils pleurent sur le Batamikdash, et après ils avancent vers Akadosh Baruch Hu. Bon, ça c'était chapitre 10. C'est vrai que j'ai pas trop développé la semaine dernière. En tout cas, juste ce que je voulais qu'on montre la semaine dernière, c'est la notion de que si on avance étape par étape, en vérité on est dans le coup beaucoup plus qu'on le pense. Nous on croit qu'on n'est pas dans le coup, mais on est dans le coup beaucoup plus qu'on le pense. Ok. Maintenant, dans ce chapitre, on va parler d'un sujet très intéressant, passionnant. La question est la suivante. Comment un juif qui fait teshuvah peut-il être joyeux? Je vais expliquer ma question, vous allez voir que la question en fait est très compliquée. Lorsqu'une personne fait teshuvah, pourquoi fait-il teshuvah? Parce qu'il réalise la gravité
des
erreurs qu'il a faites. Maintenant, quand tu retrouves le chemin de la Torah, tu es content. Pourquoi tu es content? Parce que tu es content d'avoir retrouvé la vérité. Mais quel est le problème? Le problème est que plus tu avances dans la Torah, et plus tu réalises à quel point les bêtises que tu faisais avant étaient vraiment graves. Encore plus graves que tu pensais. Et donc du coup, c'est un phénomène très fréquent. On a des fois des Baal Teshuvah qui font une Teshuvah extraordinaire, mais qui restent angoissés, qui restent tristes, pour le restant de leur jour. Et j'en connais beaucoup de gens comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, plus tu avances, et plus tu réalises la gravité de ce que tu as fait. Je vais donner un exemple. Un exemple très simple. Imaginez par exemple quelqu'un, un enfant, qui sans faire exprès, une fois, il a tiré la nappe, il a fait tomber la nappe, et du coup, il y avait un vase, le vase est tombé, il s'est cassé. Le vase est cassé. Bon, pour l'enfant, c'est un vase, c'est du verre. Donc il va nettoyer. Bonsoir. Et là, sa mère va lui dire, mais tu sais, c'est quoi le vase que tu as cassé? C'est un vase qui coûtait très 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 cher. Bon, l'enfant, il comprend que c'est sérieux. Passez la toilette, s'il vous plaît. L'enfant, il comprend que c'est sérieux. Alors il va dire, maman, pardon, désolé, je savais pas. Donc il va dire, maman, est-ce qu'on peut essayer de recoller les morceaux? Et évidemment, qu'est-ce qu'elle va lui répondre sa maman? Elle va lui dire, mais non, mon fils, on a cassé un vase, on peut plus recoller les morceaux. Bon. Entre-temps, cet enfant va grandir. Et quand il va grandir, on va lui apprendre que ce vase qu'il a cassé, c'est pas Stam un vase. C'est un vase de collection. C'est un vase qui a une valeur inestimable. Et plus il va grandir, et plus il va réaliser qu'en vérité, il croyait avoir compris la gravité, mais c'est un cas beaucoup plus grave qu'il le pensait. Et c'est sans fin. Parce que plus tu avances, plus tu avances, plus tu avances, plus il va réaliser, mais en vérité, c'est très grave ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se ronger toute leur vie pour dire qu'ils ont fait. Et ça s'explique. Parce que dans la vie, plus tu avances, plus tu réalises. Et des fois, des erreurs qu'un jeune homme il a fait, il avait 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Oh, une erreur de jeunesse. Mais plus il grandit, après ce monsieur, il va devenir papa. Après, il va devenir mari. Après, il va devenir papa. Après, il va devenir grand-père. Après, il va devenir arrière-grand-père. Et plus tu avances dans la vie, plus tu évolues, et plus tu réalises la gravité de ce que tu as fait. Donc, un phénomène qui est malheureusement très fréquent et qu'on va, on va résoudre aujourd'hui, c'est comment faire pour être un Baal Teshuva joyeux. Et la question est très complexe parce qu'en vérité, on va prendre un exemple, le jour de Kippour. Le jour de Kippour pour vous, c'est un jour triste ou un jour joyeux ?
C'est un jour joyeux.
Non.
Alors c'est vrai que si vous rentrez dans une synagogue séfarade, on pleure. C'est un jour qui est très joyeux, on chante.
C'est joyeux.
D'accord ? Mais la vérité, c'est difficile d'être joyeux parce que le problème, c'est quoi ? C'est qu'à Kippour, à quoi je pense ? Je pense aux fautes que j'ai faites. Kippour, il porte bien son nom. Kippour, c'est pardon. Pardonner quoi ? On pardonne les mitzvot. On pardonne les averot. Et on te le rappelle tous les jours. Al-chet, 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 al-chet. T'as des noms clairs. Donc un jour comme ça, quand tu réalises qu'on ne parle pas de Tartompion, on parle de qui ?
Moi.
On parle de moi. Et c'est de moi qu'on parle. C'est pas du voisin, c'est de moi. Donc à un moment, t'es dérangé. À un moment, tu dis, mais mince, mais c'est grave. Comment on va faire ? Comment ça marche ? Et donc, a priori, le jour le plus triste de l'année devrait être Kippour. Et pareil, un Baal Teshuva, plus il avance dans la Teshuva, et plus il doit être triste. Alors vous allez dire, non, il faut oublier les fautes, il faut être joyeux. Mais dans ce cas-là, j'ai un autre problème. C'est que si tu te rends pas compte de la gravité de tes fautes, tu pourras jamais faire Teshuva. Donc en vérité, je suis bloqué, je suis devant un mur. Parce que si je pense à mes fautes et que je réalise la gravité de ces fautes, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être triste. Et si, d'un autre côté, je ne vais pas penser du tout à la gravité de mes fautes, je suis un inconscient. Quoi, tu crois que la vie est belle ? Tout va bien ? T'as fauté, c'est grave. Qu'est-ce que tu rigoles ? Donc je suis bloqué. Et pourtant, la Torah me dit, sois Bessimra. Mais comment tu es Bessimra ? J'ai fauté. J'ai fait de choubah, mais j'ai fauté. Et plus j'avance, et plus je comprends que c'est grave. Le roi David illustre ça avec trois mots. Qu'on va développer aussi aujourd'hui. Je sais pas si on y arrivera, mais... Vechatati negdi tamid. Ma faute est tout le temps devant moi. Tout le temps. Peut-être ici, chacun va essayer de s'imaginer une faute qu'il a fait lorsqu'il était un peu plus jeune. D'accord ? Une bêtise qu'il a fait, une bêtise. Que maintenant, il sait que c'est bêtise. Et vous allez voir que chacun de nous, tel qu'il se connaît, il verra que plus il avance dans la vie, et plus il voit que la faute ne disparaît pas en vérité. Si c'était une vraie faute, pas des trucs bidons, une vraie faute que tu as fait, si vous en avez fait, la faute ne disparaît pas, elle est toujours là. Et pas seulement qu'elle disparaît pas.
Ça veut dire quoi ?
Bah, c'est pas qu'elle disparaît pas, c'est que tu fais tes chouvas, dans le sens que on te dit que tu vas être bien jugé. Mais la trace de la faute ne disparaît pas, parce que plus tu avances, bah, la trace, une faute,
ça. Le souvenir, tu veux dire?
Bien sûr.
Ah, le souvenir.
Tout. Le souvenir et la trace. Parce que l'impact d'une faute est infini.
D'accord.
Je donne un exemple. J'ai pris un morceau de fer. Je l'ai tordu. Bon. Je vais faire tes chouvas, donc je vais le redresser. Pour moi, il est droit. Seulement, plus tu vas être raffiné, et plus tu vas voir qu'en réalité, ce que tu croyais être droit, c'est pas droit.
C'est ça.
Donc, tu vas essayer de dire, on va essayer encore de le travailler, de le rendre encore plus droit. Et plus tu vas être raffiné, plus tu vas être fin, plus tu verras en microscope, plus tu verras qu'en vérité, ce que tu as cassé, tu l'as pas réparé. D'accord ? Oui, le problème, c'est que la fonte, c'est la mort. C'est compliqué. Maintenant, je dis pas ça pour nous déprimer, parce que sinon, on fait jamais de chouva. Ce que je dis simplement, c'est que quand on fait de chouva, on a un vrai dilemme. C'est que d'un côté, on te demande de faire tchouva et de réaliser la faute que tu as fait. Donc, c'est déprimant. C'est clair. Et d'un autre côté, on te demande d'être bessimra. Alors, comment ça marche? Comment je peux avoir les deux en même temps?
Alors, comment concilier, alors, quand on nous, par exemple, dans les fêtes de Kippour, puisque vous en parlez, on dit, voilà, on a la tchouva à Kippour. Quelqu'un qui fait aussi la tchouva. Ou alors, quand il y a la Brit Mila, celui qui est dans le comment on appelle ça,
le Sandak
par exemple, lui il a plus de faute. On dit bien qu'il a plus de faute, le Sandak.
Il a plus de faute, attendez, souvent.
Le mari, deux secondes,
il a plus de faute. Non, attendez, deux secondes, c'est clair. Il a plus de faute comptabilisée.
Ah bon ? C'est-à-dire, il a zéro ?
Bah oui, il a plus de faute comptabilisée. Maintenant, les fautes qu'il a fait, c'est des traces.
Alors, dans ce cas-là, on finit jamais.
Bah oui, on finit jamais, c'est ma question.
Toute la vie, ça vous traîne avec vous.
Je vais vous donner un exemple.
Comme un boulet.
Je m'excuse de l'exemple qui va être un peu hard. Imaginez une personne qui est partie avec une femme mariée et qui a fait un mamzer. Tu sais ce que c'est un mamzer? Voilà, un bâtard. D'accord? Comment tu peux faire tchouva dessus?
Rien du tout.
Même s'il fait tchouva, il regrette tout ce que tu veux 10 000 fois.
C'est la grosse faute, déjà. C'est une grosse faute.
Seulement, oui, mais je, non, oui. Mais alors oui, seulement. Dit, pourquoi dans cette faute on a plus de facilité à comprendre? Parce qu'on voit qu'il y a un bébé, il est là, et ce bébé il va grandir et tu peux rien faire. Il est là, il aura des enfants, etc. La tâche est éternelle. Maintenant, dites-vous que chaque faute, chaque fois que tu fais une faute, tu crées un bébé. C'est peut-être pas un bébé qui est visible avec tes yeux, mais c'est une énergie qui, que tu génères dans le monde. Et cette énergie, ça s'arrête pas. Elle est là.
Normalement, on ne devrait pas l'appeler bâtard, puisque c'est pas de sa faute, ce bébé.
Ah, mais le bébé, il n'est pas rien.
Il faut rien, mais on l'appelle, on lui dit qu'il est...
Comment vous appelez ça?
Mamzer, voilà, Mamzer.
C'est la réalité.
Pour peu qu'il devienne un grand sadique, on dit, mais heureusement qu'elle a fauté.
Monsieur Benita, vous allez mélanger deux substances chimiques qu'il ne faut pas mélanger. Ça va vous faire une explosion. Tu vas dire, mais c'est pas de la faute du mélange, il a rien fait. Ouais, mais le mélange, il a rien fait, mais tu mélanges deux substances chimiques qui peuvent pas mélanger, ça explose.
C'est pas droit.
Il y a rien à faire.
C'est pas droit.
C'est comme ça. Hachem, il te dit, monsieur un tel va avec madame un tel. Lorsque monsieur un tel va avec madame de l'autre, c'est pas possible. Ça marche pas. Maintenant, tu dis, oui, mais il n'y a pas eu de bébé. Ils ont mis ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de bébé. Alors, ça change pas. Parce que quand il y a un bébé physique, c'est une chose. Même quand il y a un bébé physique, tu as généré une énergie qui restera toujours là.
Mais enfin, bon, ce mélange que vous dites, c'est fait entre monsieur et madame, le bébé, lui, il y est pour rien.
Mais peu importe.
C'est pourquoi
il m'en le bébé, c'est un détail. Le bébé, c'est un détail, parce que c'est la réalité. Bon, revenons à notre histoire. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour joindre, pour concilier ces deux approches. D'un côté, la tristesse de la teshuva, et d'un autre côté, la simra, la joie. Très difficile, j'en ai deux, parce que t'es bloqué. Si tu n'es pas triste, ça veut dire que t'es inconscient. Et si tu es triste, comment seras-tu joyeux? Donc je suis bloqué. Alors on va voir. Ve'omnam cependant. Page 263, chapitre 11. Ve'omnam cependant. Liot belibo ahna'a. Liot belibo ahna'a. I prina tshuva tata anal. Ve'gam asimcha bashem. D'accord? Pour que une personne va réussir. Excusez-moi deux secondes. Voilà. Oui. Liot belibo achna l'Hashem. Comment faire pour avoir les deux? C'est quoi les deux? D'un côté avoir la soumission, qui est la teshuva, et d'un autre côté avoir la simcha d'un kadosh baruch hu, les deux en même temps. Comment c'est possible? Kvar milta amura belikute amarim sof perek la medalet. Dit l'Admor HaZaken, j'ai déjà répondu à ça dans le chapitre 34 du Tanya. Quelle est la réponse? Basé sur un mot du Zohar. Que moi je ketu bezohar kadosh. On tourne la page. Comme c'est écrit dans le Zohar kadosh, chedvat ki abelibae misitrada. La joie est logée dans mon cœur d'un côté, et les pleurs sont logés dans mon cœur d'un autre côté. Alors, il faut que j'explique de quoi on parle ici. Le Zohar là-bas il raconte une histoire suivante. Ça approche de l'Agba Omer. Le Zohar raconte que Rabbi Elazar une fois, il a entendu les secrets de la Torah que son père est en train d'expliquer à propos de la destruction du Beth Amidash. D'accord? Et il raconte que donc son père, une fois, lui a dit, je viens, Elazar, mon fils, je vais t'expliquer les secrets de la Torah, les secrets du Beth Amidash, de la destruction du Beth Amidash. Expliquer les secrets de la destruction du Beth Amidash. Il raconte Rabbi Elazar que lorsqu'il a entendu son père lui expliquer ces tellement grands secrets de la Torah, alors, d'un côté, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'en écoutant son père parler, ça lui a permis de réaliser à quel point la destruction du Beth Amidash est extrêmement grave. Et que c'est pas seulement une bâtisse qui a été effondrée, c'est un événement très très grave. Mais d'un autre côté, les secrets de la Torah que son père lui a dévoilés étaient tellement puissants qu'il était joyeux. Et il raconte, il a cette phrase extraordinaire dans laquelle il dit « Un côté de mon cœur était joyeux et un autre côté de mon cœur était en train de pleurer. » Comment c'est possible? C'est une scène qui décrit. Ça veut dire, il dit, il était là en train de... D'un côté, il était là en train de réaliser la gravité de la destruction du temple, donc il se mettait à pleurer. Et en même temps, il voyait la beauté des secrets de la Torah que son père lui disait. C'était tellement fort, des secrets qui parlaient de la destruction, mais c'était des secrets quand même, qu'il était là en train d'être joyeux. Et comment il a illustré ça, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, j'avais un côté de mon cœur qui était triste, un côté de mon cœur qui était joyeux. Qu'est-ce qu'on apprend par ici? On apprend d'ici que Kadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de marier, de concilier deux sentiments qui sont contradictoires, opposés. C'est possible. Comment c'est possible? On aura des exemples, mais c'est possible. Et on le voit dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles, par exemple, une personne va en même temps pleurer et en même temps rire. D'accord? On le voit, par exemple. Il y a des fois, des fois, c'est vrai que c'est une situation.
Israël dernièrement, là.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est deux jours distincts. C'est pas la même chose. C'est pas de ça que je parle. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, on voit d'ici qu'il y a cette notion qu'un juif peut avoir la capacité d'avoir les deux en même temps. C'est possible. Tu peux avoir les deux choses en même temps. Ok. Maintenant, on va aller plus loin. Et là, ça va être une notion très importante qui va expliquer. Donc ça, c'est une introduction. Dans l'introduction, tu dis déjà, sache que tu peux avoir deux sentiments en même temps. Premièrement. Deuxièmement, te dit l'Admor HaZaken, il te dit, Ubet Siruf, Od Emuna Vabitachon. Il faut en plus rajouter la foi et l'assurance. D'accord? Donc, Liot Nachon Libo Batuar Bashem, qui Rafet Sresadou, Vechanun Verachum Verav Lisloach. D'avoir la Emuna, que Akadosh Baruch Hu veut le Chesed. Et Akadosh Baruch Hu, il veut pardonner. Et que dès lors que tu as demandé le pardon, Akadosh Baruch Hu t'a accordé le pardon. Alors ça, c'est très important à développer. Parce que, faut comprendre comment ça marche. Tu comprends? Qui me dit que j'ai pardonné? Ça, c'est un vrai problème chez le Baal Tshuva. C'est que le Baal Tshuva, il fait Tshuva. Hein, mais, toujours le challenge qu'il a, il se dit, mais qui me dit que j'ai été pardonné? Est-ce que j'ai été pardonné?
Non seulement ça, puis il y a la trace qui me suit toute ma vie.
Exactement. Alors. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer dans le cours d'aujourd'hui. On va essayer d'expliquer comment ça marche. D'accord? Comment ça marche? Comment, d'un côté, on peut avoir le bitachon, la confiance que Kadosh Baruch Hu il nous a pardonné, et d'un autre côté, on fait des choses sérieuses. Vous voyez le problème, le challenge qu'on a? Ok. Alors, il y va. Ou betziruf od haemuna vabitachon, liot libo nachon batuar bashem, ki rafet resedou. Se dire que Kadosh Baruch Hu se complaît dans la bienveillance. Kadosh Baruch Hu, il veut ton bien. C'est-à-dire que le Baal Tshuva, déjà, pour réussir à être des simcha, il doit partir d'un postulat très simple. Dieu veut mon bien. Il y a des gens que chaque fois qu'ils s'imaginent Akadosh Baruch Hu, ils s'imaginent un père qui est là avec un revolver, qui attend, dès que t'as bougé, t'as fait un truc qui est pas bien, on va te toucher, on va te tuer. Phrase Shalom. Faut voir les choses comme ça.
Enfin, là, tous les malheurs qui arrivent aux gens, comme on peut dire.
Il faut partir de la base que Akadosh Baruch Hu veut notre bien. Verav l'isloach, et qu'Akadosh Baruch Hu veut te pardonner, et qu'il te pardonne. Tekef umiyad, shemevakesh michila usticha meito et barech. Dès lors que tu demandes Mechila à Kadosh Baruch Hu, il t'a pardonné. Donc là, si vous voulez, Admor HaZaken va nous expliquer concrètement, comment, d'un côté, je dois faire une teshuva sérieuse, et d'un autre côté, il faut savoir tourner la page. Tourner la page, et savoir être capable de me dire, à Kadosh Baruch Hu m'a pardonné. Être capable de l'affirmer, de dire, à Kadosh Baruch Hu m'a pardonné. C'est difficile, parce que, qui me dit qu'il m'a pardonné? Qui suis-je pour me dire qu'il m'a pardonné?
Dans le Beit HaMikdash, il a montré qu'il a pardonné, il a envoyé le feu.
Voilà.
Et là, on l'a pas.
Oui. Donc, qu'il envoie le feu qui descend du ciel.
Mais là, on l'a pas. Le Bahoud là qui veut faire Tshuva.
Oui.
Il n'y a pas le feu.
Alors, comment ça marche? D'accord? D'où tu es sûr que tu fais Tshuva? Que Tshuva est accepté? Et d'ailleurs, le Yetzara, il joue avec ça. Parce que le Yetzara, il te voit en train de faire Tshuva tout feu. Qu'est-ce qu'il dit, le Yetzara? Le tsar a dit, et si les teshuva n'avaient pas été acceptés? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Je peux continuer, je sais pas.
Donc, est-ce que toute ma vie je vais rester déprimé? C'est ça en vérité le problème. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on commence à toucher au fond du problème. Admor HaZaken, il te dit, pourquoi tu es déprimé quand tu fais teshuva? Parce qu'en vérité, tu n'es pas convaincu que ta teshuva a fonctionné. Tu as une petite voix au fond de toi qui te dit, et si ma teshuva n'avait pas marché?
Peut-être parce que les fautes, elles sont importantes et qu'on n'arrive pas à aller au fond pour les changer. Donc finalement, il reste toujours un résidu.
Alors.
Et donc au final, on peut jamais effacer, c'est-à-dire de dire, ok, ça va, j'ai compris que j'avais fait une avéra. Ok, j'ai compris que je vais essayer de changer les choses.
Mais.
Bon, dans la pratique, c'est pas 100% réussite. Donc au final, est-ce que la chose va être acceptée parce que c'est pas 100% réussi? Et que c'est même
80%. Oui, mais c'est jamais 100% réussi.
Ah d'accord, ok, alors ça va, c'est super. Si c'est 1% et je suis de chouva, c'est bien, je suis heureux.
Oui, mais d'un autre côté, la question que je me pose, c'est qui me dit que ma teshuva a été acceptée?
c'est ça la question. La question, c'est, elle est là-dedans. C'est comme je sais, de... pour moi, dans mon système à moi mental.
C'est une question de foi. Hein.
Si, comme quand on est petit, si je me tiens bien, j'ai un bonbon. Si je me tiens pas bien, j'ai pas de bonbon.
Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on me dit si tu tiens bien, tu auras un bonbon, d'accord? Quand on me dit si tu tiens bien, tu auras un bonbon, le bonbon, je le vois. Mais là, la teshuva, je ne sais pas si ma teshuva a marché ou n'a pas marché. Mais qui me dit que ma teshuva a été acceptée?
Rien.
Rien. Donc, finalement...
C'est déjà mon comportement. Le fait que j'ai changé, donc j'ai la conviction que je suis dans le chemin de la teshuva.
Ça, c'est une chose. C'est juste que...
C'est moi-même qui... Il n'y a que moi-même qui peut me dire ça. Hein. Personne d'autre peut me dire.
Oui, mais...
Je suis dans un chemin différent.
La question n'est pas est-ce que j'ai changé? C'est pas ça la question.
Forcément, on change.
Non. Est-ce que j'ai été la question n'est pas est-ce que j'ai changé. La question c'est est-ce que j'ai été pardonné. C'est ma question. Est-ce que j'ai été pardonné?
Donc à chaque Kippour, ça compte pas.
Mais même Kippour qui me dit que j'ai été pardonné.
Bah, je sais pas.
Est-ce que j'ai fait une vraie tchouva?
Je pense qu'on a une telle imagination.
Alors, c'est ça ce que va expliquer l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il va te dire la chose suivante. Il va te dire comment tu fais pour être Bessimcha alors que tu fais tes tchouva. Il faut être convaincu que Dieu t'a pardonné. Convaincu sans aucun doute. D'où tu es convaincu?
Tu pars gagnant.
Ah, on y va. Non, pas par gagnant. Je suis convaincu qu'Hachem m'a pardonné. Pourquoi? Alors regardez, il va expliquer. Il dit que dès lors que tu demandes à Kadosh Baruch Hu le pardon, tu dois avoir la Emouna qui t'a pardonné. Je vais en bas de la page 264. Blishum Safek ou Sfek Sfeka Baolam. Je ne dois pas avoir aucun doute, ni l'ombre d'un doute. Je ne dois pas laisser la place au doute. Dieu m'a pardonné. Point barre. D'où tu sais ça? Alors regardez, il a une preuve magnifique. Comme on fait la bracha dans chaque tfilat shmoneh esrei. Regardez. Tous les jours, on fait une amida. Qu'est-ce qu'on dit dans l'amida? Slach lanu avinu. Pardonne-nous, notre Père, car nous avons fauté. Donc je vous demande de me pardonner. Très bien. Et comment je termine la bracha? Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, Chanun, le miséricordieux, Hamarbe l'histoire, qui pardonne beaucoup. Donc c'est un présent. Ça veut dire, je vous donne un exemple, si j'appliquais ça à un dialogue.
Non, il n'a pas dit qu'il pardonne tout.
Non, au contraire, je vais expliquer. Il y a un problème. Imagine-toi par exemple, je demande pardon à quelqu'un. Je dis, excuse-moi, Michel, de t'avoir blessé. Donc je te parle, tu vois. Je dis, pardonne-moi Michel, car j'ai fauté, etc. Béni sois-tu Michel, celui qui m'a pardonné. Ah, alors Michel, il va dire, mais attends, doucement. Je t'ai rien dit, moi. De quel droit on vient dans la bracha? Et on dit, slach lanou, pardonne-nous, béni sois-tu l'Éternel, celui qui pardonne. Un présent, quoi, il a pardonné. Mais qui t'a dit qu'il a pardonné?
Tu t'en as perdu.
Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'on est tellement sûr que Dieu l'a pardonné qu'on a fait une bracha. Maintenant, vous savez qu'il y a un principe qui dit que ça fait que brachot, les hakel. Si on a un doute sur une bracha, on la fait pas. Donc si on avait un doute, même l'ombre d'un doute, que peut-être Akadosh Baruch Hu nous a pas pardonné, on n'aurait pas pu faire cette bracha. Et si les rachamim ont instauré cette bracha, béni sois-tu l'Éternel, celui qui est miséricordieux, qui pardonne, c'est un présent, et il pardonne, pas qui peut pardonner, pas qui va pardonner, qui pardonne! C'est un présent. Ça veut dire qu'on est persuadé à 100% et que je repardonne.
Donc ça veut dire qu'il pardonne, ça veut dire qu'il m'a pardonné l'ensemble de ce que j'ai fait, par exemple, si c'était à Shacharit du matin.
Plus que ça. Plus que ça.
Passé dans la nuit.
On va expliquer dans la suite, du coup, hein, pourquoi c'est expliqué Hamarbe l'histoire. Celui qui pardonne beaucoup. C'est-à-dire quoi, pardonner beaucoup? On peut pardonner un peu, pardonner beaucoup, ça veut dire quoi? Pardonner beaucoup.
Faute.
On va voir. On va expliquer. Ok? Donc, il dit la chose suivante. Et on continue. On n'a aucun doute qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Et ça, c'est très important à se dire au bal teshuva. Quand tu fais teshuva, tu as décidé de changer dans ta vie. Et que Baruch Hashem, tu avances. Et que Baruch Hashem, tu fais des grands efforts. Tu dois être convaincu à 100% qu'Hashem t'a pardonné. Convaincu. Sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute. Convaincu.
Oui, mais là aussi c'est pareil, hein. Il y a que lui qui le dit, mais j'ai pas la preuve.
Non, justement. Non, mais là la preuve, c'est la prière.
C'est le même système que tu crois Dieu, tu crois pas Dieu.
Ouais.
C'est
le même principe.
Si on te dit, pour nous,
tout à l'heure on disait, je sais pas, il est dans la page, regarde.
Quelle est la preuve comme quoi il a vraiment pardonné, etc. Bon, ben là pour autant, on n'a pas plus de preuves. On dit, ben voilà, parce que je lis cette prière, bon, ben, c'est pas une preuve.
Ok. C'est pas une preuve. Oui, mais ça veut dire quoi, c'est pas une preuve? Bien sûr, c'est une preuve, parce que si les chachamim, quand...
C'est un texte que tout le monde lit, on peut le lire comme ça, machinalement.
Oui, mais je comprends. Ma question n'est pas comment moi je lis le texte. La question est ceux qui ont instauré le texte. De quel droit ils ont instauré le texte comme ça? C'est les gens qui connaissent la profondeur des choses. Donc si tu instaures un texte comme ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en vérité, les Rachamim sont persuadés que, ils te disent, je suis sûr à 100% que tu es pardonné, je suis tellement sûr que je peux en faire une deracha. C'est-à-dire de la même façon que quand je fais Boré Périaetz, devant moi j'ai un arbre, j'ai un fruit, que c'est clair, de la même façon, on te dit, Baruch Ata Hashem, Chanun Amar Velislor, je suis sûr que Hashem t'a pardonné. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Quand tu fais Teshuva, tu dois être convaincu à 100% qu'Hashem t'a pardonné. Convaincu. Parce que le Yitzhara, il joue avec ça, il te met le doute dans la tête. Vous savez, c'est quoi le doute? Comment on dit le doute en hébreu? Safek.
Safek.
Safek, c'est la même guématrie, à la même valeur numérique que Amalek. Ah ouais. Ça veut dire que c'est ça, Amalek. Amalek, c'est pas un ennemi qui vient te dire, viens, j'ai une avéra à te proposer. Il n'a rien à te proposer. Il te dit, est-ce que tu es sûr que tu es sur le bon chemin? Et si ta tchouva n'a pas marché? Maintenant, il t'attend en tournant, le tsar. Parce que tu vois, par exemple, imagine-toi quand même qui a fait de choses sur quelque chose de très grave qu'il faisait. Par exemple, tous les samedis soirs, il fallait aller, ou les vendredis soirs, il allait ou il fallait pas aller. Et une fois, il fait de choses, il arrête complètement. Et une fois, il repasse comme ça, il a un tout petit sentiment de, peut-être d'attirance. Il passe devant, et des gens qui sortent avec des vêtements,
au contraire, ou pas de vêtements. Donc il doit être bien.
Je comprends. Mais il a un petit sentiment d'attirance. Et là, il est tsar, il saute dessus.
C'est
normal. Il lui dit, tu vois, t'as pas changé.
Mais non, parce qu'il a pas été.
Non, mais deux secondes. Mais c'était pas la place du Yitzhara. Le Yitzhara, il va utiliser ça pour te dire, tu vois, t'as pas changé. Alors c'est faux, bien sûr, t'as changé. T'as fait Tchouba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important de comprendre cette notion. De comprendre cette notion. Que quand tu as fait Tchouba, tu dois être convaincu à 100% qu'Hachem t'a pardonné. Maintenant, après, ça ne veut pas dire que Tchouba s'arrête là. La Tchouba, on peut toujours la parfaire, et encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est pas contradictoire. Mais ce que je dois être convaincu, qu'Akadosh Baruch Hu m'a pardonné, point barre. C'est ce qu'il dit ici. Sans aucun doute. Sans l'ombre d'un doute. Bon. Alors regardez, il va aller plus loin. Parce que avec ça, on va comprendre la progression des brachot. Des brachot dans l'amida. Comment commence l'amida? Bon, d'abord on dit Atachon et Adam Dat, c'est pas de celle-là. Après on dit, Hachivenu, avinu le Torah Terra. Ramène-nous notre père de la Torah. Baruch Ata Hashem, Harotze Bitshuva. Béni soit-tu l'Éternel, celui qui veut la Teshuva. Oui. Donc dans le premier bracha, on parle du fait que Dieu attend qu'on fasse Teshuva. C'est number one. Après, deuxième bracha, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Slachanu, pardonne-nous car on a fauté. Qu'est-ce qu'on répond juste après? Baruch Ata Hashem, Chanun Avon Yisloach, béni soit-tu, tu nous as pardonné. Ça veut dire que l'affaire est classée. C'est pardonné. Après, troisième bracha, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Rein Avonu Nuvrivarinu, Baruch Ata Hashem, Goel Israël. Béni soit-tu l'Éternel, celui qui libère Israël. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la émouna suivante. Écoutez bien. Je suis tellement convaincu qu'Hachem m'a pardonné, qu'en vérité, la Géoula aurait pu venir tout de suite.
La quoi?
La Géoula.
Oui.
C'est pour ça que, d'abord, on te dit, Dieu, il veut la Teshuva. Après, on dit, pardonne-nous, béni soit-tu celui qui nous a pardonné. Après, on dit, amène la Géoula, Goël Israël. Celui qui libère Israël. Pourquoi? Parce que, je suis tellement convaincu que ma Teshuva a marché, que Dieu peut me libérer maintenant. Pourquoi la Géoula n'est pas venue? Parce que juste après, j'ai refauté.
Parce que quoi?
Juste après, j'ai refauté encore une fois.
Ah oui. Et là, il te repardonne à nouveau. Jusqu'au moment où tu crois.
Hein?
Là aussi, alors, aussi quand on fait le contraire, on a obtenu la Teshuva,
ouais.
Mais Dieu, il n'a
aucune garantie. Toi, donc, très bien. Donc là, maintenant, on va poser exactement, c'est la question que Michael a posée tout à l'heure. Ouais. D'accord? Il a posé une question. Il a dit, ça veut dire quoi, marber l'histoire, que Dieu pardonne beaucoup? En vérité, c'est ce qu'il va expliquer ici. C'est très fort. Imaginez, Michel. Un petit remontant?
Non, c'est
bon. Alors, imaginez, d'accord? Imaginez la chose suivante. Imaginez que vous avez quelqu'un qui vous a blessé. Il vous a blessé.
Ça arrive.
Ça arrive. Il te demande pardon. Bon, sincèrement, pardonne-moi, vraiment, je n'avais pas l'intention, je suis désolé. Vous lui pardonnez?
Ah oui, il a demandé.
Il demande de pardon, bien sûr. Ne pas rancunier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce même monsieur, le lendemain, il refait la même gaffe. Il revient vous voir, il dit, vraiment, Mendy, excuse-moi, je voudrais te demander pardon, vraiment, de tout mon cœur, je n'ai pas fait exprès.
Bon, je fais, mais c'est la dernière effort. Hein.
Voilà. En général, je dis, écoute, je veux bien faire un effort, mais arrête-toi. Bon. Maintenant, qui revient, 2 heures plus tard, il refait la même bêtise, il revient me voir avec un grand sourire, pardon. Je lui dis, écoute, pas bien, papa. Tu vas rester chez toi à la maison, et le jour où tu seras sérieux, tu viens me voir. Pour l'instant, ne me parle pas. C'est normal. C'est-à-dire que tu peux pas venir demander pardon à quelqu'un tous les jours. Maintenant, imaginez que nous, avec les Kadosh Baruch Hu, on fait ça 3 fois par jour.
Pour les 3 moments de la journée.
C'est pas 2 fois dans la vie. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Tous les matins, on dit à Dieu vraiment pardon, je te promets, je recommencerai plus. Et pourtant, à Mitra, on redit la même chose. Maintenant, c'est quoi le pire? C'est qu'à Mitra, tu l'as dit, des fois, c'est Mitra suivi d'Arvit. Ça veut dire que c'est passé dans un quart d'heure, même pas. Tu redemandes pardonne-nous. Pourquoi tu redemandes une fois pardonne-nous? Pour les fautes éventuelles que tu as fait entre Mitra et Arvit. Mm-hmm. Tu t'imagines, le gars? Mais on se fout la tête de Dieu, je m'excuse du terme. Ça veut dire quoi? Ça t'a fait Mitra, tu vois, 19h30, ça fait Mitra. T'as dit pardonne-moi, et tu as dit il m'a pardonné. 20 minutes plus tard, tu te retrouves encore une fois à retirer la même phrase. Même alors, celui qui est là, il va dire, mais attends, je comprends pas.
Pourquoi tu n'es pas suivi d'Arvit?
Tu n'es même pas sorti
d'Arvit. Tu n'es pas sorti d'Arvit.
Il va dire, mais je ne suis pas sorti, je n'ai pas eu le temps de fauter. On dit, si, peut-être qu'entre temps, tu as fauté. Peut-être qu'entre les deux, peut-être que tu as eu une petite pensée de pas cachère, ou une petite pensée de la chanara, ou un truc comme ça. C'est une faute. Alors, j'ai envie de dire, mais à Kadosh Baruch Hu, il aurait dû nous dire, écoute, le jour où tu es sérieux, tu viens me voir. Tant que tu es sérieux, tu viens pas me voir. C'est pas sérieux. C'est pour ça que les Chachamim ont instauré dans le texte.
C'est l'antidote.
Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Chanun Hamarbe l'histoire. La Kadosh Baruch Hu, il n'arrête pas de pardonner. Ce qui est incompréhensible pour un être humain. On peut le retrouver un peu avec les enfants, mais c'est très difficile. On peut voir un enfant qui va gaffer, par exemple, et qui va venir te voir avec un grand sourire, avec des larmes et tout, mais vraiment de tout son cœur, il dit, papa, je ne recommencerai plus. Et il le croit à 100%. Et il va te le faire des dizaines de fois. Alors tu pardonnes, mais même avec ça, il y a des limites. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas 3 fois par jour t'excuser pour la même chose. C'est pas possible, ça passe pas.
On est né coupable.
Et pourtant,
on est né coupable.
On le fait. On le fait.
On est né coupable.
D'ailleurs, vous savez que même à Kippour, quel est le halchet principal avant Kippour? Le halchet, le moment où non, pardon, c'est avant Mincha avant Kippour. Et après, on répète une fois le soir de Kippour, une autre fois le lendemain à Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila, halchet, prends répète, enfin, certains oui, certains non, pour Neila. Prends répète halchet à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on te dit, peut-être, entre Mincha et Neila, t'as peut-être refouté. Donc on refait halchet. Mais j'ai envie de dire, mais à Kadosh Baruch Hu, mais ils sont pas sérieux ceux-là, ils se moquent de moi.
Ils s'arrêtent pas.
Ils s'arrêtent pas, le bonhomme. Ouais, c'est pas sérieux.
Bah oui.
Prends-toi au sérieux, dis-moi oui, non, voilà. Prends en avance. C'est pas, ça marche pas, c'est pas sérieux. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, non seulement qui veut pardonner, mais il pardonne, et il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'il pardonne. Et ça, on doit en être convaincu. Parce que la vérité, les fautes qu'on fait, c'est toujours autour des mêmes choses. Chacun se connaît. On sait que tous les kippour ont fait à peu près tchouva sur les mêmes fautes. À peu près. Alors après, c'est des détails qui changent. Mais le moteur reste pratiquement le même. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des détails qui changent. Le Yitzhara, il ne s'arrête pas. Donc, il nous propose des nouvelles avérotes. Mais en général, si tu vois, reprends les cinq derniers kippour de ta vie, là. Les 5 derniers kippour. Tac, 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 tac. D'accord? Remonte jusqu'en 2014. Tu verras à quoi j'ai pensé à kippour. À peu près autour des mêmes choses. C'est-à-dire que les mêmes problèmes que tu avais, c'est les mêmes problèmes qui vont revenir. Alors, on se moque de Dieu. Tu comprends? Tu lui dis, je te promets, je ne recommencerai plus, etc. Ouais, ça, c'est bon. On l'a donné.
Je te connais.
D'accord, je te connais. Bah oui, je te connais. T'es venu l'année dernière, tu m'as fait le même cinéma. Tu comprends, quand tu fais un film, quand tu fais le retour, pas le tome 2, comment on appelle ça, quand tu fais l'opus numéro 2 du film, bah, il faut qu'il y ait une nouvelle histoire. Si tu prends la même histoire et tu la recommences, ça marche pas.
L'épisode numéro 2.
Tu comprends. C'est-à-dire, si tu prends épisode 1, épisode 2, ben on recommence la même chose, tu vois. On recommence comme le début de l'autre film, même chose. Début, milieu, fin. Tu te dis, mais ça marche pas comme ça. Il faut une nouvelle intrigue, il faut un nouveau truc, montre-moi quelque chose de nouveau. Mais nous, on a l'impression avec nous, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. On prend les mêmes et on recommence. On recommence. Pardonne-nous, je recommencerai plus. Et c'est reparti. Pardonne-nous, je recommencerai plus, on recommencera.
Mais en même temps, c'est pas personnifié. Quand tu dis pardonne-nous, tu peux prier pour une assemblée.
Quoi? Au contraire.
Dans le Shemoneh Esrei, c'est-à-dire que c'est pas personnifié.
Ça, c'est une autre question que tu poses. Ouais. Pourquoi l'Amida est faite, pratiquement toute l'Amida est faite au pluriel? Ouais. C'est pour donner plus de poids à notre demande. Parce que c'est la Gemara qui explique ça. Quand tu fais une demande personnelle, Bon, c'est moi qui demande, donc ça passe ou ça passe pas. Mais quand tu t'inclus avec le Kahal,
là, ça marche.
Ta demande a plus de poids, donc elle passe mieux. Ouais. Mais en vérité, tu dis pardonne-nous et tu penses pardonne-moi.
Oui,
on
est inclus dans le... Comme tu disais que c'était pas faire une bracha quelque part qui ne serait pas accomplie, le fait d'inclure la globalité...
Bah, j'ai une question à te poser. Qui suis-je pour demander pardon pour un autre qui a fauté? Il faut qu'il lui demande pardon.
D'accord.
Il y a un problème, non?
Mais oui, mais comme c'est un pardonne-nous qui est dit par plusieurs personnes, il a plus de poids.
Oui, mais il a plus de poids, mais je comprends. Mais comment je peux dire pardonne-nous en incluant un gangster qui est là-bas qui n'a pas fait
de
choix?
Pardonne-nous de tous ceux qui font le chemin à l'essai.
Ah non, parce que il faut dire pardonne-nous pour la faute que je demande. D'ailleurs, c'est écrit quand tu fais slach là, nous, on est kavan.
Donc, c'est ça veut dire.
C'est ce que ça veut dire. Non, toute la mida, par définition, est faite au pluriel, mais on pense au singulier.
Parfait.
Du début à la fin d'ailleurs. Hein.
Oui,
Elokeinu, velokavotenu, notre Père. Et à la fin, d'accord. Sim shalom, aleinu, valkol Israël. Toute la mida est faite au pluriel. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir la emouna que Kadosh Baruch Hu nous a pardonné. Et pas seulement il nous a pardonné, il ne se lasse pas de nous pardonner. Ce qui est incompréhensible. Incompréhensible. Aucun être humain ne peut faire ça. À faire dans les mots. D'accord.
On faute. On demande pardon, on nous pardonne, on faute, on en parle une fois. Et donc ça veut dire qu'on passe à chaque fois sous la douche.
Ah non, attention.
On passe.
C'est une bonne question. La vraie question qu'on doit poser, c'est la vraie question. Est-ce que quand j'ai fait tchouva, j'étais sincère?
Alors,
oublions que j'ai recommencé. Attendez.
Oublions.
Non.
C'est notre feu pain.
C'est pas si simple. Parce que quand par exemple quelqu'un il te blesse, il te demande pardon et il recommence. T'as envie de dire, ça veut dire qu'en vérité, il a jamais réalisé la gravité de ce qu'il a fait.
C'est pas le même rapport qu'on a avec Dieu.
Pourquoi? Pourquoi? C'est la même chose. C'est la même chose.
C'est un être humain, nous, par rapport à Dieu, on est différents. Enfin, non, moi, je pense que c'est pas la même chose.
Qu'est-ce que ça change?
Ça change.
Moi, je vois pas en quoi ça change.
Je m'adresse à un humain, j'ai pas les mêmes rapports que quand je m'adresse à HM. Je pense que ça ne reste pas de la même façon et on ne voit pas les mêmes choses.
Ah oui, mais qu'est-ce que ça change quoi? De toute façon, tu demandes pardon à quelqu'un, ou tu le penses ou tu le penses pas. Si tu le penses, tu dois être sincère et ça doit marcher. Si tu le penses pas, ça marche pas.
Quand on dit... Oui, mais t'as plus de facilité à refaire la même chose.
Ah oui, non, mais d'accord, non.
Je pense que quand on dit nous, moi c'est ma pensée, hein, c'est que tu inclus l'Éternel et toi. C'est nous, toi et moi, on est nous.
Non. Elle a pas fait de faute.
Je n'ai pas fait de faute.
Bon,
on va continuer. Va arrêter. Alors regardez. Afilou, je suis en bas de la page 265. Va arrêter. Afilou, bemidat, basar, vadam, ken. Même dans la mesure, pour un être en chair et en sang comme nous, il y a un principe qui dit qu'un homme doit toujours pardonner. C'est une halakha qui te dit que quand il demande pardon, il faut pardonner. Velo yarzari minimchol. Il ne faut pas être cruel, rancunier, en disant non, je ne te pardonne pas. D'accord? Et dis la Gemara, je vais aller plus loin. Regardez la suite, ça va vous choquer. Va filou bekota et travero. La Gemara Babakama nous amène un cas. Il y a monsieur A qui a coupé la main de monsieur B. D'accord? Et monsieur A, il va demander pardon après à monsieur B. Monsieur B se pose la question, il dit est-ce que je dois lui pardonner? Je ne dis pas en tant l'autre joue, je ne dis pas en tant l'autre main, c'est pas ce que j'ai dit.
On vient de lire là, oui.
Alors la Gemara dans le traité Baba Kama, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Gemara dans le traité Baba Kama, elle nous dit la chose suivante, elle nous dit que même mes côtés aillent à travers eux, parce que c'est quoi la particularité d'une main coupée? C'est qu'une main coupée ne reviendra jamais.
Non.
Tu comprends?
Donc, tu peux pas répondre.
Tu fais une blessure à quelqu'un, une blessure. T'as fait une blessure et du sang qui a coulé. Ça fait mal, ça peut être handicapant, mais on peut guérir. Mais quand on coupe une main, la main ne peut plus revenir. Donc imaginez quelqu'un qui vous a causé un tort irréparable et qui après vient vous demander pardon. Sincèrement. Et vous demandez pardon. Est-ce que vous devez lui pardonner?
Après,
oui. La Gemara te dit oui. Tu dois lui pardonner. Et il te dit plus que ça. On est tellement sûr que tu dois lui pardonner.
Attends, on parle d'une relation.
Je termine, deux secondes, l'idée. Oui, bien sûr. On te dit la chose suivante. Mais si maintenant, imaginez Monsieur A qui a coupé la main à Monsieur B, il demande pardon à Monsieur B. Monsieur B ne veut pas le pardonner. Non, je te pardonnerai pas. Tu vas couper la main, je te pardonne pas. Parce que c'est pas se comprendre. Il demande une fois. Il attend quelques jours. Il demande une deuxième fois. Il attend quelques jours. Il attend une troisième fois. Et les trois fois, il répond non. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit quand tu as demandé trois fois pardon à quelqu'un, sincèrement, la balle est dans son camp.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que maintenant, t'as plus besoin d'aller redemander pardon. S'il veut pardonner, c'est le revenir toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah nous apprend une valeur, elle nous apprend une valeur, que quand quelqu'un te demande pardon, il faut pardonner. Donc on dit, si Dieu nous demande à nous de le faire, à plus forte raison que lui-même le fait. Que quand on lui demande pardon, il nous pardonne. Maintenant, tu vas dire, oui, mais qui mieux que Dieu nous connaît? Et qui sait que peut-être on va refauter? Il connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît tout. Qui sait qu'on va refauter? Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Parce que Dieu, ce qu'il nous demande de faire, il le fait aussi. De la même façon que la Gemara te dit que lorsque quelqu'un te demande pardon, même si t'as coupé la main, il faut lui pardonner. De la même façon, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on lui demande pardon, sincèrement, mais qui n'est pas sincère, lorsqu'on lui demande pardon, même si, probablement qu'on va refauter. Bon, il y aura un kippour l'année prochaine, et il y aura une prière dans 2 heures. D'accord? À Kadosh Baruch Hu, il dit, je regarde pas ce qu'il y avait hier, je regarde pas ce qu'il y aura dans 2 heures, je regarde le juif qui est devant moi. J'ai devant moi quelqu'un qui de tout son cœur me dit pardonne-moi. Je le prends. Je le pardonne. Sauf que, comme je disais, pour une personne en chair et en os, c'est que ça reste quand même limité. Même si on me dit que je dois pardonner, et que même si on a coupé la main, il faut pardonner, mais ça reste limité. C'est-à-dire que quand même, il y a des limites. Je peux pardonner une fois, deux fois, trois fois, après c'est fini, après je peux plus pardonner, après je dis bon, c'est bon, laisse tomber, je te connais plus. Mais à Kadosh Baruch Hu, il est illimité. C'est-à-dire, le même sentiment de pardon que tu as la première fois. Imagine-toi la première fois que monsieur A t'a blessé. Et que tu l'as pardonné sincèrement. Parce que tu dis, bon, ça va, c'est la première fois. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout le temps la première fois. Il arrive à te pardonner tout le temps comme si c'était la première fois. Donc, la Teshuvah marche. Donc, puisque la Teshuvah marche, je ne laisserai pas mon Etzahara me déprimer, me rendre triste. Me dire, ta Teshuvah n'a pas marché. Je ne le laisserai pas. Je dirai à mon Etzahara, écoute-moi bien, Hachem m'a pardonné. Je suis pardonné. Maintenant, vous avez tout à l'heure, plusieurs qui ont posé la question, dit oui, mais qu'en est-il des traces qui restent de la Vera? Ça, on verra après. Mais déjà, l'assurance que je suis pardonné, c'est très important. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai étudié ce chapitre, ça m'a beaucoup marqué, cette idée. Cette idée qu'il faut savoir se rassurer. Parce que dans la vie, on est toujours sceptique. C'est comme ça. Surtout quand on parle de l'inconnu. Quand tu parles, tu as dit tout à l'heure, t'es sage, t'auras un bonbon, t'es pas sage, t'auras une punition. Bah, le bonbon, tu le vois, la punition, tu la vois. Mais là, on te parle d'un truc abstrait, tu comprends, on te dit, j'ai fait une faute, j'ai fait de chouva, c'est pas trop, ça a marché, ça c'est pas parce que, non, bah, justement, c'est pas parce que je mets un chapeau et je mets une redingote que je suis pardonné. C'est ça le problème. C'est que ça, c'est, bah oui, une barbe, etc. C'est pas parce que je fais Shabbat que je suis pardonné. C'est ce que le Yitzhara me dit. Il dit, mais qui te dit que t'es pardonné? Qui te dit que t'es pardonné? Qu'est-ce que je réponds? Je suis pardonné. Hachem m'a pardonné. Chanoun Hamarbe l'histoire. D'accord? Alors, il y a quand même une exception dans la Gemara. Il y a un cas où on nous a interdit de pardonner.
Malek.
Non, c'est pas Malek. C'est les Givonites. On va expliquer tout de suite. Et même ça, on va expliquer pourquoi on ne devait pas leur pardonner. Et pourquoi ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça veut dire que il faut savoir une chose. Un juif, par définition, pardonne son prochain. Donc, puisque Dieu, ce qu'il nous demande de faire, il le fait aussi, et encore plus que nous. Donc, si on lui demande pardon, il nous a pardonné. Alors, je disais qu'il y avait une exception. On est dans les mots Vagiv Onim. Alors, Vagiv Onim, au milieu de la page 266. Vagiv Onim, chez Bikesh, David Amelech, Ravashalom, Amechila, Beat Shaul. Quant aux Givonites, qui ne voulurent pas pardonner quand le roi David leur demanda pardon. Shemit et Givonim, Velo Ratsulimchol, Gazar, David, Aleem, Shelo, Yavou, Bikel, Hashem, Shem, Rachmanim. On te dit comme ça. On te dit, il y a un cas dans lequel le roi David a refusé de pardonner. C'était quoi? C'est les Givonites. David Ameler, d'accord, David Ameler, il leur a dit, pardonnez, d'accord, à Shaul. Parce que Shaul avait pris une décision à cause de laquelle il y avait des Givonites qui étaient morts. Et les Givonites étaient très 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 fâchés. Et le roi David, il a dit, bien que Shaul était son rival, le roi David, il a dit, pardonnez-leur. Il a dit aux Givonites, pardonnez Shaul. Ils n'ont pas voulu. C'était rancunier. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Il a dit, eh ben, puisque vous voulez pas pardonner, on vous accepte pas dans la communauté, vous pourrez vous marier qu'entre vous, et vous pourrez jamais vous marier avec une fille juive. Vous êtes dehors. Donc, en d'autres termes, il les a exclus du peuple juif. Comment il a fait ça? Toute une histoire, les Givonites, hein, comment ils étaient venus. C'était des gens qui s'étaient convertis par la ruse, etc. Ils n'étaient pas de chez nous, mais ils étaient convertis. Et le roi David, dès qu'il a vu ça, il a dit, dehors. On se mariera pas avec vous. Donc, ça veut dire qu'il a signé leur arrêt de mort, quoi. Enfin, Pourquoi il a fait ça? Alors là, tu vois, le roi David, il n'a pas pardonné. Tu me dis que le pardon est une valeur juive. Il n'aura pas pardonné. Il dit, non, pas du tout. Le roi David, il les a pas punis. C'est le problème, c'est quoi? C'est que la punition qu'ils ont eue était un résultat direct de leur problème. Pourquoi? Parce que un des trois signes des Juifs, c'est quoi? Les Juifs ont trois signes distinctifs. C'est quoi les trois signes? Baishanim, Rahmanim, Gomelé Chassadim. Ils sont timides, timidité intérieure. Rahmanim, ils sont miséricordieux. Et Gomelé Chassadim, ils sont bienveillants, ils ont envie toujours d'aider. Chesed. Donc eux, il leur manquait Kelmida. La deuxième, Rahmanim, miséricordieux. Donc le roi David, il les a pas punis. Il leur dit, moi, je vous punis pas. Mais je dis que puisque je vois ce qui se passe devant moi, c'est une preuve que vous n'êtes pas juif. Que vous vous êtes jamais converti en vérité. Donc, c'est pour ça, il leur dit, vous dire que vous n'êtes pas juif, je ne peux pas, parce que j'ai pas ce pouvoir, mais d'un autre côté, on peut pas vous laisser vous marier avec nos filles. Parce que votre comportement prouve que vous n'êtes pas rejoint par le juif. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, est-ce que le roi David les a punis? Non, il les a pas punis. Il leur a simplement dit qu'en tant que résultat direct de vos actions, qui prouve que vous n'êtes pas Rahmanim, donc, du coup, vous n'êtes pas, il vous manque un des trois signes des juifs. Donc, il y a un problème. Vous savez qu'il y a une halakha Shouchanahour, qui dit que s'il y a une famille, qui est connu comme une famille de gens qui sont très très radins et qui n'ont aucune rachmanut. Il faut se poser des questions s'ils sont juifs. Alors en général, on se pose pas ce genre de questions, mais on va se poser ces questions quand il y a déjà une faille. Par exemple, il y a une famille qui vient, on sait pas trop d'où elle vient, on n'a pas d'historique. Imaginez quelqu'un. Alors tant qu'il n'y a pas de mariage, on pose pas de questions. Quelqu'un qui vient à la synagogue ici, il me dit je suis juif, je lui demande d'amener la ketouba de ses parents. Non, parce que ça va impliquer quoi? Le minyan. Ça ira pas plus loin que ça. Par contre, dès qu'il veut se marier, il dit, ah, t'es juif? Il dit, je suis juif. D'où t'es juif? Comme à la ketouba. Maintenant, imaginons qu'il n'y a pas de ketouba. Il n'a pas la ketouba des parents, il n'a pas la disparition, etc. Alors, on va enquêter, on va essayer d'enquêter. Il va mettre peut-être des photos d'une tombe, d'une grand-mère, etc. Il n'y a pas. D'accord? Il y a un truc, mais qui est bancal. Un truc qui est vraiment bancal, qui tient pas trop la route. Alors là, on va essayer de faire une enquête sur la famille. Et si on découvre que la famille, il lui manque un des trois signes du peuple juif, eh ben, on empêchera les gens de se marier avec elle. Enfin, si on voit que c'est des gens qu'on n'a pas de preuve de judéité, il n'y a pas de ketouba, il n'y a rien du tout. Et en plus de ça, c'est une famille qui lui manque un des trois critères, ils ne sont pas miséricordieux, ou ils sont pas, etc. Shranor te dit, il faut se poser des questions. On ne dit pas qu'ils sont goy, mais on ne dit pas qu'on peut se marier avec eux. C'est la halakha, ce que je vous dis. Hein. C'est la halakha, j'ai fait une formation, c'est ma mère, c'est la halakha. Aujourd'hui, ça s'applique. Bon, aujourd'hui, Baruch HaShem, avec les recherches, on arrive à remonter à pas mal de générations. On arrive. Ça coûte des sous, mais on peut le faire. Ça peut, ça, on arrive aujourd'hui à retracer. Il y a des familles, des fois, qui débarquent. Ils n'ont aucune trace. Tu fais quoi avec ça? Eh bien, si tu arrives à remonter, à retrouver des valeurs juives, à retrouver le style juif, l'attitude juive, on peut encore discuter. Mais si le gars, ni il a des preuves, ni il a l'attitude d'un juif, pff, rien à faire. C'est pour ça que le roi David a viré les Givonim. Il ne les a pas virés. Il leur a dit, votre punition, c'est même pas moi qui vous la donne. C'est vous qui vous l'êtes infligé vous-même. Comme vous avez prouvé par votre comportement que vous n'êtes pas miséricordieux, donc, vous avez prouvé vous-même par votre comportement qu'il y a un problème dans votre conversion. Donc, on ne peut pas vous accepter. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le roi David ne les a pas punis et qu'il n'a pas entravé la valeur juive du pardon. Ça veut dire, pardon. Hein? Ben oui, pardon, c'est une chose, mais on n'est pas des pigeons.
Mais quelque part, si, le fait de les avoir excommuniés.
Non, il ne les a pas excommuniés, ce que je viens de dire. Il ne les a pas excommuniés. Il leur a dit, votre conversion pose problème. Donc, on va empêcher les gens qui sont de souche, quoi, qui sont juifs, on va les empêcher de se marier avec vous. Pas parce qu'on vous aime pas. Parce que votre conversion a un problème. Il y a des choses qui tombent par rond ici.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Shaoul?
Et toute une histoire. Shaoul avait fait une guerre, il avait tué des Givonites. Et eux, ils ont refusé de toute une histoire. Enfin, une histoire très dramatique. Toute une histoire avec une concubine qui a, enfin bon, je veux pas rentrer dedans. Toute une histoire compliquée. Oui, il faut lire dans la Bible avec les commentaires, parce que sans les commentaires.
Lui-même, il avait des concubines.
Aïta, Hidan Atanar. Hein? Mouizaha.
Israélé.
Ah, Israélé. Aïe, Américain, il est
là? Aïe, Américain, il est Israélé.
Hein? Il y avait le Hidan Atanar, il y avait le concours du Tanar.
Ouais. Ah oui, c'est un Français qui a gagné.
Non, un Israélien.
C'est un Israélien.
Bon, Bekit Surama ici. D'accord? On continue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des valeurs juives, c'est quoi? C'est la valeur du pardon. On doit pardonner. Donc si Hachem nous dit qu'on doit pardonner...
Ce sera un pardon réel.
Oui, mais si Hachem nous dit que nous, on doit pardonner, tu pardonnes à ta femme, tu pardonnes à tes enfants, tu pardonnes à ton collègue, tu pardonnes à tout le monde, tu pardonnes, on pardonne. Un juif doit pardonner, il ne faut pas être rancunier dans la vie. Pas bien. Et des fois, des gens, on leur fait... Même si le tort est avéré, c'est un vrai tort. Un vrai tort. Le seul cas dans lequel on peut s'abstenir de pardonner... Mais c'est un cas que je crois qu'on dit qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est si on pense que la personne qui est en face de nous qui demande pardon n'a pas vraiment réalisé ce qu'il a fait. Vous savez, c'est le style d'une personne, toute l'année, il t'a blessé, tu vois. Après, il t'envoie un SMS, deux armes qui pour Mechila, mon frère. Mechila, mon frère.
C'était groupé.
Message groupé. Mechila, si je t'ai offensé. Ouais, bah oui, viens, viens, on va parler. Ça, ça se fait pas. Là, tu dis, bon, tu réponds pas, mais voilà. Mais en général, si une personne te demande Mechila, il faut pardonner. Et même ça, je crois, nous dit qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que des fois, la personne, il n'ose pas, il a peur de se prendre un râteau, de se faire jeter. Donc, il va demander Mechila, il dit, bon, je tâte le terrain. Donc, s'il se fait jeter, il continuera pas plus loin. Et s'il voit qu'on lui répond, bon, c'est un match, quoi, tu vois, c'est un partout, deux, c'est voilà, c'est. Bah c'est comme voilà, ça nous est.
Il n'a pas besoin de demander. Hein.
Ça nous est tous arrivé par exemple de nous fâcher, Monsieur Benita. Ça vous est déjà arrivé de vous fâcher avec Madame?
Ah là là.
Alors comment ça reprend? Comment
non,
ça?
Non, la question.
Comment? Attendez, non.
Qui ne se fâche pas avec Madame?
La question, c'est quel jour il s'est pas fâché?
La question, voilà. C'est là. Alors comment tu reprends? Comment tu reprends? Non, mais comment tu reprends?
Les jours qu'il n'est pas à la maison.
Comment tu reprends avec Madame? Tu reprends pas d'un coup. Tac le terrain, chacun tac le. Petit à petit, on reprend. Ça après ça repart, mais. C'est pas tout d'un coup. Il n'y a pas 0-1. Ça marche pas comme ça. C'est pas binaire. De la même façon. C'est de la même façon, nous aussi, quand on fait Mechila, pardonner quelqu'un, bon, on peut pas pardonner peut-être d'un coup, mais on s'habitue à pardonner. Donc si Hachem nous demande de pardonner, ça veut dire que lui aussi pardonne. Et ça veut dire que lorsque je lui demande sincèrement de tout mon cœur, mais je suis sincère. Qui n'est pas sincère? Qui a envie de fauter? Qui a envie d'être un fauteur? Tu vous connaissez, vous, une personne qui fait sa mida tout à l'heure, qui va dire pardonne-nous quand on a fauté, qui va dire attends, j'ai dit pardon, mais en fait, je continue tout à l'heure. C'est n'importe quoi, personne ne fait ça.
Mais en réalité, c'est ce qui se passe.
Non.
Si. On vient de demander dans la tefila, pardon,
oui,
on
mais
sort et on continue à mener la vie.
C'est comme ça, c'est la vie, ça.
Voilà.
Vous avez vu une personne.
C'est comme ça qu'on écrit.
Vous avez une personne, par exemple, qui a décidé de faire le régime. Et il va commencer à faire le régime. Il va écouter le docteur. Il va dire attention au cœur, attention à la scie. Il a écouté. Il va écouter un jour, deux jours, une semaine, après il tombe un peu. Et après, il voit que le cœur, il commence à. C'est compliqué. Donc il va chez le docteur. Il dit monsieur. Monsieur Benita,
il vous a prévenu.
Ah. Oui, c'est vrai, bon, je me suis laissé un peu aller, c'est bon, on va se reprendre. Et on se reprend 2 mois plus tard. Monsieur Benita,
Attention.
Ah, vous écoutez pas? Alors il dit, non, je vous promets, ça y est, je vais arrêter. Quand vous dites, je vais arrêter, vous le pensez ça sincèrement. Et après, on est reparti pour un tour, etc. Ça veut dire que c'est la vie, c'est comme ça. Comme tu dis, Michael, l'homme est fait comme ça. Mais la vraie question qu'on a se poser, c'est est-ce qu'au moment où je demandais pardon, j'étais sincère? Est-ce que moi j'ai pris la bonne résolution, est-ce que j'étais sincère? Est-ce que j'ai pris une bonne résolution parce qu'il fallait prendre une bonne résolution, ou est-ce que réellement j'étais sincère?
Et alors si il fallait prendre une bonne résolution et que j'étais sincère quand même quand il fallait le faire?
Ah, c'est très bien, ça marche.
À mon avis, celui qui a pris cette résolution, il est sincère. Pourquoi? Parce que personne ne l'oblige à faire cela, il le fait de son propre chef et avec sa propre volonté. Donc c'est quelque chose qui est volontaire.
Oui.
Si c'est volontaire, donc c'est voulu. C'est pas imposé.
Oui, je comprends. Mais d'un autre côté, la question qu'on a posée, c'est est-ce que la teshuva n'était pas une teshuva, est-ce que la demande de pardon n'était pas faite comme une simple formalité? C'est-à-dire du style, je t'ai embêté, je te demande pardon, quoi. C'est comme, on a l'impression que c'est une lettre à la poste, quoi, tu vois. C'est une formalité, tu vois. C'est, tac, je t'ai blessé, pardon, tac, 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 tac. C'est pas un clic de temps, dis-moi, attends.
Et même la teshuva d'intérêt, elle est, comment ça s'appelle, elle est pardonnée, elle est acceptée.
Ça, on verra après. Il faut la trouver.
D'intérêt, ça veut dire, tu as reçu une gifle?
Non, ça, c'est bien, c'est très bien, ça. La seule teshuva qui nous dérangera, c'est lorsqu'une personne faute en comptant sur la teshuva.
Non, pas ça.
Ah ouais.
Ça c'est non. Plus compliqué.
Il a reçu une gifle, c'est très rare ça.
Et aussi un autre cas qui nous posera problème, c'est lorsqu'on arrive à prouver, mais qui va prouver ça? On arrive à prouver que la personne lorsqu'il a fait tchouva, en vérité, il n'est pas revenu. En vérité, il a juste dit des mots, mais il comptait pas revenir. C'est-à-dire qu'il a fait tchouva de façade. D'où vous savez qu'il y en a?
Il y en a.
Qu'est-ce que vous savez?
On voit après la preuve.
Non, ça c'est pas un non. C'est pas une preuve ça. C'est comme un enfant. Il dit papa, je recommencerai plus. Après, l'instinct était plus fort, il a fauté. Ça ne veut pas dire qu'au moment où il a dit « je ne recommencerai plus », il n'était pas sincère. C'est très dur. C'est-à-dire que là, on joue avec des nuances. C'est des nuances très fines.
Le plus difficile, c'est de continuer une fois qu'on a décidé de faire la teshuva. C'est ça le plus difficile. C'est de poursuivre. Une fois qu'on a pris la décision, le plus difficile, ce n'est pas de prendre la décision. C'est de continuer sur cette décision.
Alors ça, c'est deux choses. Il y a deux questions qu'on a posées. Première question, c'est est-ce que j'ai pris la décision? Est-ce que c'était sincère? Deuxième question, est-ce que ça a marché ou pas? C'est une autre question, ça.
Ben, ça marche automatiquement. Ah. Puisque dans la tefila, on dit que finalement, tu es pas.
Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais ça n'empêche pas que c'est deux paramètres différents. Premier paramètre que je vais me poser, c'est est-ce qu'au moment où la personne a fait tchouva, il était sincère ou pas? Deuxième paramètre que je vais me poser, c'est est-ce que ça a tenu ou pas? Alors vous, monsieur Benita, vous dites, si ça n'a pas tenu, c'est une preuve que ce n'était pas sincère. Je vous réponds, c'est faux. Il y a des choses qu'on était sincère, mais que ça n'a pas tenu, parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire tenir, parce qu'après, la vie était plus forte que la décision. La vie est pleine de problèmes comme ça. Plein de problèmes comme ça.
Non, mais je dis que si à partir du moment où il était dans le processus de la Teshuvah, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas la décision qu'il est prise, la plus difficile, c'est de continuer dans ce cheminement.
Oui, j'ai compris.
C'est là le plus difficile.
C'est dur. Je comprends que c'est dur. Personne n'a dit que ce n'est pas dur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si je n'ai pas réussi à continuer dans le cheminement, le simple fait que j'ai fait la Teshuvah et que ma Teshuvah était sincère, ça marche. Bon. On y va ? Allez, on pose le portable en avance. Alors, donc.
Il faut lui dire quelque chose, non ?
Oui. Ah, pardon, Joseph.
Ah, oui.
Pourtant. Non, c'est con. Oui, ça veut dire que le pardon, il existe. Pourquoi le pardon ? C'est quoi le pardon ? Ça veut dire que moi, je vais faire une faute. Je n'ai pas le pardon dans ma tête. Je ne vais pas demander à être pardonné, forcément. Parce que j'ignore qu'il y a du pardon. Je peux ignorer.
Okay.
Je veux pas, j'ai pas l'intelligence.
Maintenant, après la faute, qu'est-ce qui se passe?
Pardon.
Ça, c'est pendant la faute.
Et je sais même pas que j'ai fait une faute, hein, même à la limite.
Bon, après la faute, qu'est-ce qui se passe?
Il y a le regret.
Non, à partir du moment où tu demandes le pardon, c'est parce que c'est à la suite.
Je réalise.
Tu imagines que tu as fait une faute, mais la première faute, on sait pas qu'on, c'est une faute qu'on a fait.
Joseph, les Avdil, comment ça marche chez les autres? Ils font des fautes, mais je vais expliquer. Ils font des fautes, ils vont racheter leur faute. Comment on rachète la faute? On paye. Connaissez pas la blague?
La première fois j'ai fait des bêtises.
Connaissez pas la blague, Joseph? Vous allez écouter la blague. Une fois, hein, c'est une blague, attention. Hein. Une fois, il y a un curé qui est embêté pour le dimanche.
Ah ouais.
Il est embêté, en fait, il doit partir en déplacement, il lui faut un remplaçant. Le problème, c'est qu'il est embêté parce que s'il va prendre un remplaçant et que le remplaçant est trop bon, il risque de lui prendre sa place. Donc il faut qu'il trouve un remplaçant qui va pas lui prendre sa place, mais qui est bon. Et c'est pas possible. Tu mets un remplaçant. S'il est bon, il va prendre la place. Donc il réfléchit. Il dit, j'ai une idée. Je veux prendre quelqu'un qui peut pas me remplacer. Le rabbin.
Qui est bon et qui peut
pas
me remplacer.
Il est bon, mais il peut pas me remplacer. Donc il va voir le rabbin. Il va là, monsieur le rabbin, entre religion, interreligieux, on va se rendre service. Est-ce que vous pouvez me rendre service? Alors, au moment, le rabbin, il dit, c'est compliqué, je peux pas dans l'église, etc. Je dis, ne vous inquiétez pas, on vous fera dans la cour, ce que vous voulez, où vous voulez. Juste, ils viennent chez vous. Je dis, c'est pas compliqué. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, juste, ils viennent, ils me demandent pardon, ils mettent une pièce, ils s'en vont. Bon. Alors, le rabbin dit, bon, si ça peut vous dépanner, pas de problème. Bon, je dis pas que je l'aurais fait, mais si ça peut vous dépanner, pas de problème. Donc, il le fait, et le curé, il part tranquillement, etc. Une semaine plus tard, lorsque le curé revient, il arrive le dimanche, et il y a personne qui vient. Il dit, c'est bizarre, j'ai des habitués du dimanche, ils sont où, il y a les fauteurs de la semaine, il y a le dimanche. Alors, j'ai mes clients. Alors, il sort dans la rue, il y a personne qui arrive, il sort dans la rue, il rencontre un voleur, tout ce que tu veux. Il lui dit, dis-moi, t'as rien fait cette semaine? Il dit, bien sûr, j'ai fait. Mais je me suis arrangé avec le rabbin. Il dit, quoi, qu'est-ce que t'as arrangé avec le rabbin? Et il dit, c'est pas compliqué. Je suis parti voir le rabbin. Alors, quand je suis parti voir le rabbin, il m'a dit, dis-moi, combien il te prend par semaine, le curé? Alors, il m'a dit, il me prend 50 euros. Alors le rabbin lui dit, je te donne 200 euros, je te fais 10 passages. Et il m'a fait des trucs, il m'a dit, juste du poisson.
Il n'y a pas d'abonnement.
L'abonnement.
Des poissons.
Bon, vous avez compris. Ça veut dire que ça marche pas comme ça, la Teshuva. La Teshuva, c'est pas je paye et je dis voilà, j'ai payé, c'est bon, je suis tranquille. C'est pas, non, pas ça. La Teshuva, c'est une décision de ne pas recommencer. Sincère.
Je paye, toi.
C'est pas. Non, ah, bah oui. Pas. Vous imaginez, le gars, il quitte la paroisse, il dit bon, à la semaine prochaine.
C'est quelque chose qui n'est pas vendable et qui n'est pas achetable non plus, alors.
Hein?
C'est pas vendable.
Ok. On continue. Ou bien, midat akadosh baruchu. Alachat. Je suis en bas de la page 66. Ou bien, midat akadosh baruchu. Alachat kama ve kama le enket. Si déjà, un être humain doit pardonner, même si on lui a coupé sa main, je dis pas qu'on tend l'autre joue, c'est pas ce que j'ai dit. Ça c'est chez eux, c'est pas chez nous ça. On tend pas l'autre joue, mais on pardonne. Le pardon est une valeur juive. Donc si déjà...
Pardonner c'est un peu tendre l'autre joue aussi. Hein,
non, pas du tout. Non, je tends pas l'autre joue mais je pardonne. Non, pas du tout.
Non, pardonner c'est...
Pardonner c'est retourner la page. Pardonner c'est pas je tends l'autre joue, je tourne la page.
Pardonner c'est dire que
c'est... 4-3 fois le pardon. Donc,
maintenant, je comprends ta question Marcel, parce que d'un autre côté, tu sais... ce qu'il y avait en Israël, je crois que c'était à l'époque de Ben Gurion, il y avait les Allemands qui voulaient donner des sous.
Ouais.
Vous voulez donner des...
On a dit qu'on parlait des juifs.
Ah, voilà, exactement.
On n'a pas parlé des juifs avec les goyes.
Il y avait des grandes, grandes manifestations.
Mais oui,
d'accord, de centaines de milliers de personnes. Bien sûr. Il y avait Begin qui était très, très fort contre, à l'opposition, qui disait comment on peut prendre leur argent pour se faire pardonner. C'est impardonnable. Maintenant, ça n'a pas été présenté comme un pardon, mais tout le monde a compris que c'était ça. Ils ont donné beaucoup d'argent, jusqu'aujourd'hui, ils donnent beaucoup d'argent.
C'était pour sauver l'État.
D'accord. Seulement, alors voilà, selon Ben Gurion, il disait il faut sauver l'État, il y a de l'argent à prendre, donc etc. C'était discutable. C'était vraiment discutable.
C'est pas un pardon, c'est une compensation.
Oui, mais concrètement, dans la tête des médias et dans la tête des gens.
La tête des Allemands, surtout.
Ça veut dire prendre une compensation de la part d'une personne qui a tué, Dieu préserve tes parents, d'accord, quelque part, c'est une forme de pardon. C'est une forme de tourner la page. Pouvait-on tourner la page après la Shoah?
Non, c'est impossible.
Grande question, ça.
C'est impossible.
Grande question.
Ça ne s'achète pas.
Impossible. Ouais. C'est impossible. Faire des choses comme ils l'ont fait, sciemment, toute conscience, être drogué, en sachant ce qu'ils faisaient.
Regarde comme les Israéliens, ils vont là-bas habiter.
Je vais raconter une blague. C'est une vraie histoire, ça, en plus, celle-là.
Vous
savez, le commandant des armées des États-Unis en Irak, à l'époque, pendant la guerre d'Irak, dans les années 2000. Comment il s'appelait? Schwarzenegger, Schwarzkopf. Alors, c'était donc au début de la guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, dans les années 2000. Et il y a un journaliste qui lui pose la question, qui lui dit, est-ce que vous êtes religieux? Il dit, oui, je suis religieux. Quelle religion? Chrétien. Alors, il lui dit, mais si vous êtes chrétien, vous devez savoir que dans le christianisme, il y a une notion de pardon. Donc, on parlait de l'Al-Qaïda à l'époque, etc. Donc, il dit, pourquoi on ne leur pardonnerait pas? Journaliste qui pose des questions, une question sérieuse. Alors il a répondu comme ça, Schwarzkopf. Il a dit, moi je peux pas pardonner. Il y a que Dieu qui peut pardonner. Mon rôle, c'est d'organiser la rencontre entre celui qui a fauté et Dieu.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Le départ.
Et ça revient. Tu as vu ce qui s'est passé avec la Pologne hier, avant-hier?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont fait une manifestation contre les juifs, de parrainer les affaires des juifs, des Polonais.
Les Polonais, oui.
Il y avait des milliers, pas des 200, 300, des milliers.
Ils ne veulent pas rendre.
Rendre quoi?
Ben oui, mais
ils ont
volé. Ils leur prennent l'argent. Il y a des maisons encore qui existent.
Il y a encore des biens qui n'ont pas
rendu. C'est encore même pas 1%. C'est encore 1% de ce qu'ils ont pris.
Non, mais il y avait des immeubles entiers qui appartenaient aux juifs.
Bien sûr.
Il y a des immeubles entiers qui appartiennent aux juifs.
Tout. Il y avait 3 millions de personnes.
Au moins. Ils ont été dans les camps.
Mais ils ne disent pas qu'il n'y a pas trop. Ils ne veulent pas les rendre.
Il y a même des blocs.
Ça, c'est l'antisémitisme.
Jusqu'à aujourd'hui, à l'époque.
10% de la population était juif.
Et 5 millions de Polonais.
Oui, on sait très bien. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 20-30% des biens immobiliers qui devaient appartenir aux juifs.
Je comprends pas que les Israéliens vont là-bas.
C'est énorme.
C'est des milliers, 10 000 années.
20-30% d'un pays, c'est énorme.
Je disais qu'à Berlin, pour
parce que c'est pas cher.
0,5% de la population, il y avait 25% des magasins qui appartenaient à des juifs à Berlin. Pour 0,5% de la population. Donc un quart des boutiques étaient aux juifs. Donc si on fait le même ratio... C'est-à-dire les juifs représentaient 0,5%.
Mais
ils avaient 25% des boutiques.
Si bon.
On fait le même ratio en Pologne...
Bekitsour, revenons à notre histoire. Donc nous, on va se dire, pardonner à un peuple qui nous a tués, qui nous a exterminé, ça, c'est pas notre rôle. Après, bon, c'est une histoire d'argent, pas d'argent, etc., de survie, comme a dit M. Yazid.
Il y a un peu d'oseille à prendre, on peut le prendre, mais ça change
pas. Moi, j'aurais pas pris. Moi, perso, j'aurais pas pris, mais bon. Moi, je veux...
Bon, mais alors, vous voyez que, finalement, le pardon, on peut pas l'appliquer partout.
Mais attendez, c'est pas la même chose, c'est pas de ça que je parle maintenant. De quoi on parle maintenant? Là, on parle par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et par rapport à moi, par rapport à une faute Ben Adam Lamakom. Les fautes que t'as fait entre un homme et ton ami, Dieu peut pas te les pardonner. T'es obligé de demander pardon. Et c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'Averot, Ben Adam, Lamakom, les fautes entre Dieu et moi. C'est-à-dire que je lui dis, je recommencerai plus, et je le regarde à lui, je pense que je vais pas recommencer. On te dit, tu dois savoir la chose suivante. Que de la même façon que Dieu nous demande à nous de pas être rancunier et de pardonner, lui aussi, il pardonne. Maintenant, plus que ça. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. On va lire dans les mots. Je passe à la page 267. Umash et Meshaprim, Umvachim et Hashem. Analysons, justement, comme on le disait, la louange et la bénédiction adressées à Hachem. Hanun hammarbe bisloar. Clément qui multiplie le pardon. Hammarbe daika. Le terme précis qui est utilisé ici, on n'a pas dit Hanoun Hasoler, le miséricordieux, le clément qui pardonne. On a dit le clément qui multiplie le pardon. Multiplier le pardon, ce qu'on a dit tout à l'heure.
Dans toutes circonstances.
Exactement. Comme c'est écrit dans Ezra, Vérav l'histoire, que Dieu pardonne beaucoup. Ça veut dire dans le comportement des êtres humains, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure à l'oral. Dans le comportement des êtres humains, lorsque quelqu'un vous a fauté contre vous, il te demandait pardon, et tu l'as pardonné, et après il a recommencé, c'est très difficile de pardonner une deuxième fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, ça? Quelqu'un qui vous a blessé une première fois, qui vous blesse une deuxième fois, sur le même sujet. C'est dur à pardonner. Alors ou bien non, ce qu'on va faire, la vérité, soyons honnêtes, c'est que la deuxième fois tu vas pardonner, mais tu vas prendre ta distance. C'est-à-dire, tu dis bon, bah, tu m'as déçu, tu mets les voiles.
Non, c'est pour éviter finalement de se retrouver.
Voilà, exactement. Ça peut être même avec sa femme. Hein. Il y a des sujets par exemple sur lesquels tu vas te vexer, tu vas te fâcher. Ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un enfant. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on m'a blessé une fois, on m'a blessé deux fois.
Je vais pardonner,
mais c'est pas que j'ai pas pardonné. C'est que dans ma tête, ça pourra jamais revenir comme avant. Sur ça, je sais que chacun doit rester à sa place. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de tourner la page complètement, de dire il n'y a plus rien. Il reste une trace. Ça veut dire que ça, on sait que c'est un sujet épineux, on ne touche pas. Donc, il reste une trace, finalement. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais pardonner que la première fois. Déjà, pardonner une première fois, c'est difficile, mais la première fois que tu pardonnes, tu peux réussir à pardonner à 100%, c'est possible. Si la personne a fait une gaffe, une seule fois, etc., avec un peu d'effort, tu peux dire, bon, je pardonne, je tourne la page, il n'y a plus rien. Tu peux. Pas deux fois. Alors, deux fois, trois fois, c'est fini. Tu dis, bon, j'ai compris. Bon, ça, sur ça, on touche pas. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre la première fois et la millième fois. Il te pardonne avec la même intensité. Ça, c'est inconcevable pour un homme. Hanoun, hamarbe, ça on dort une cabane tout à l'heure dans la Mida. Hanoun, hamarbe, l'isloa. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'arrête pas de pardonner, mais il pardonne avec la même intensité, ce qui est impossible. Pas possible. Comment tu peux pas te lasser de pardonner? Vous savez, tous les matins, on dit Modani l'fanecha melecha vekayem. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Je le remercie de quoi? Cher Chazal Tabi Nishmati, tu m'avais rendu mon âme. Pourquoi rendu? Tu me l'avais prise. Quand je dors, ma neshama elle monte en haut. Il reste qu'une partie infime, la neshama qui reste en bas. Et lorsque la neshama monte en haut, chaque nuit, il y a un jugement. Chaque nuit. Il y a un jugement.
Une partie infime qui reste en bas.
Oui, monsieur.
C'est pas l'inverse.
Ah non, pas du tout. La majeure partie de la chemin monte en haut. C'est pour ça que le corps tient sur un filet d'énergie. La nuit, on tient sur un filet d'énergie. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Et donc la neshama monte en haut pour se ressourcer. Elle tient que sur un filet. Maintenant, lorsque la neshama doit redescendre en bas, que tu dois te réveiller, chaque fois, il y a un jugement qui se passe. Quel est ce jugement? Ce jugement, c'est les anges qui attaquent, qui disent, il veut redescendre sur terre, celui-là. Pourquoi? Pour faire quoi? Alors la neshama se défend. Elle dit oui, je veux redescendre sur terre parce que j'ai du travail à faire, je vais faire ci, etc. Sur ça, les anges ils attaquent, ils disent mais tous les matins tu dis la même chose. Tu descends, tu fais des bêtises. Donc limite on la casse. Donc tous les matins, il y a des anges qui disent laissons-le dans son sommeil celui-là, Dieu préserve. Tous les matins. Pareil, il y a un jugement. Tout le temps. Il y a un jugement. Et là, non, écoutez bien, parce que c'est très fort ce qui est expliqué. C'est qu'est-ce qui se passe? Donc tous les matins, il y a un jugement. Il y a des anges qui disent, il y a rien. Si bien sûr, on ne mérite pas. Ils disent qu'ils ne redescendent pas. Et on ne sait pas quoi faire en haut. Il y a des gens qui défendent, des gens qui accusent. Et les deux sont convaincants. Ceux qui accusent, ils disent, regarde, on prend son historique depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non, ça ne vaut pas le coup. On détruit plus qu'on construit, ça ne vaut pas le coup. Les autres qui disent, non, mais quand même, il a fait ci, il a fait ça. On reste, point mort. Qui c'est qui est possède? Qui c'est qui tranche? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, l'année chamane, c'est Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, fais-moi confiance, je te promets aujourd'hui, je vais assurer. Et qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit, tu me promets? Je te promets. Vas-y, c'est bon. Il est possède, il dit, c'est mon pays. C'est pour ça que la première chose que je dis quand je me réveille, c'est quoi? Je lui dis, merci Hachem de m'avoir rendu ma neshama, donc de m'avoir fait confiance. C'est ça. Maintenant, il y a des limites, comment tu fais confiance à quelqu'un? Tu refais ça dans les affaires. Tu mets une affaire très importante dans les mains de quelqu'un. On peut faire une gaffe une fois. Bon. Deux fois. Bon. Trois fois, tu vires. Ou tu le vires, ou tu le mets à un poste bidon. Tu vas pas le mettre à un poste de haut responsable, commercial qui va chercher les gros dossiers quand tu vois qu'il fait des bêtises. C'est pas possible. On peut pas pardonner. Il y a ce qu'on met. T'es fait pour ça, dehors. C'est tout. Imaginez quelqu'un dangereux, tous les matins, t'as le même commerçant qui revient, et qui dit, je te promets, je ne referai plus la gaffe. Et il te fait couler la boîte. C'est-à-dire qu'il est là, il te fait des bêtises sur bêtises sur bêtises. Et tous les matins, il vient, il dit, je vous promets, je ne recommencerai plus, je vous promets. Et le patron, il dit, bon, vas-y, on te laisse encore une chance. Et encore une chance, et encore une chance, et encore une chance. Atkan, à défaut, hein, il n'y a pas de limite. Mais ça, en tant qu'être humain, on peut pas comprendre ça. Parce que nous, notre confiance, il n'y a rien de pire que la confiance quand on a altéré la confiance. C'est ce que dit on a pris dans Pirkei Avot. C'est quoi la chose la plus importante dans le monde? Plus importante dans le monde, c'est quoi? Par la Torah, bien sûr. Shem Tov. La bonne renommée. Ça veut dire, c'est quoi la bonne renommée? C'est la confiance. Quelqu'un qui a perdu sa renommée, il peut avoir tout l'argent que tu veux. Quand tu as perdu la renommée, tu la retrouveras jamais. Il y a des cas où il y a des gens qui ont fait des bêtises, qui ont fait un mea culpa, qui ont regretté, qui ont réussi à retrouver. Ça sera jamais comme avant. Mais ça peut revenir peut-être une fois comme avant. Mais si le gars est un récidiviste, laisse tomber, c'est fini. Il a perdu son shem. Il peut avoir tout l'argent qu'il veut, tout l'or qu'il veut, toutes les maisons qu'il veut. S'il n'a pas de shem top, il n'a pas de confiance, rien du tout. Et ça, c'est le chidouche. Le chidouche qui est Kadosh Baruch Hu. Chez Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre une fois et mille fois. Entre la première fois et la millième fois, Kadosh Baruch Hu te pardonne sans fin. Et ça, vous savez, on le retrouve dans un pasouk. Un pasouk dans les Lamentations. Echa. Que j'espère qu'on ne lira pas à Tisha B'Av. En tout cas, on lira en rigolant. C'est écrit là-bas, Kilo Chalou Rachamav. Kilo Chalou. Chas de Hachem Kilo Tamnu. C'est la bonté de Dieu que nous ne sommes pas exterminés. Kilo Chalou Rachamav. Car sa miséricorde ne tarit pas. Ne tarit pas. C'est ça, en vérité, ce qu'il veut dire. Echa. Qui a écrit Echa? Le prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant que la miséricorde de Dieu ne tarit pas? C'est exactement ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que la miséricorde d'un être humain, forcément, à un moment, elle s'arrête. Il dit, bon, je peux plus, je n'arrive plus. Akadosh Baruch Hu, Kilo Chalou Rachamav, Kilo Chalou Rachamav, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Il pardonne. Et une fois, et mille fois, il pardonne toujours. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, on va terminer avec ça pour aujourd'hui, on doit être convaincu, à 100%, de tout notre cœur, que si Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il nous pardonne, il nous pardonne. Et d'où tu sais que t'as pardonné? Parce qu'il te le dit qu'il te pardonne. Tu dis, si t'es sincère, je te pardonne. Donc, arrêtons cette angoisse, arrêtons cette déprime de dire, oui, et si, il n'y a pas de et si, mais si, d'accord? Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. C'est tout. Nigmar, Atkan. Ça veut dire que dans ta tête, ça doit être radical, clair, sans équivoque. Il m'a pardonné. Maintenant, après, t'es en mesure de te poser la question. Comment je vais faire si je veux réparer les dégâts? Bon, c'est une autre question, ça. On verra après. Tu veux réparer les dégâts? On peut essayer de réparer les dégâts, on peut essayer de nettoyer, etc. Mais est-ce que Dieu m'a pardonné ou pas? Dieu m'a pardonné. Donc ça, déjà, enlever le poids du pardon de ta tête, c'est déjà quelque chose de très 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 important, et ça te permet de retrouver le sourire. Parce que tant que tu auras un doute que tu as été pardonné, tu n'arriveras pas à sourire. C'est comme dans un couple. C'est-à-dire que si tu vis avec la personne, tu t'es fâché avec elle, et que officiellement tu t'es pardonné, mais tu sens que tu n'as pas été pardonné, tu ne pourras jamais retrouver le sourire. Tu ne pourras jamais sourire, parce que tu sens qu'il y a un problème, il y a un blocage. À quel moment tu souris? Tu souris quand tu sens qu'on t'a pardonné. Sinon, tu n'arrives pas à sourire. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Des fois, tu sens, tu as dit, je t'ai pardonné, mais tu sens que c'est pas ça.
T'as raison.
Tu n'arrives pas à sourire. T'es bloqué. Ou bien, elle est bloquée. Elle sent qu'il manque quelque chose. Mais quand tu sens que la personne en face de toi, c'était difficile, mais il t'a pardonné, là, tu arrives à sourire. Eh bien, dites-vous qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné. Donc, je peux sourire. Pourquoi tu t'angoisses? Après, c'est en parallèle. Je vais faire tes cheveux encore. Je vais m'améliorer. C'est une autre question. Mais je dois être convaincu qu'Hachem m'a pardonné. Donc, je souris. Donc, je mets ses bras. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On continue, Bezrat Hachem. À la prochaine. Oui, allez-y.
Quand tu dis, quand tu endors, une infime partie de mes chamas reste ici, et tout le reste est là. Ça veut dire que dès lors que tout revient, ça. Tout revient, c'est à ce moment-là que tu te réveilles.
Non. Oui.
D'accord, bon. Eh bien, quand on étudie les neuropsychologues, ils étudient sur les rêves en ce moment. Et il y a une technique où la dernière fraction de seconde où tu vas te réveiller, c'est là où ton rêve, un millionième de seconde, hein, c'est là que ton rêve, tout ce que tu as rêvé dans la nuit, des bouts de rêve qui se sont réunis, et là tu as un scénario à toi de découvrir. Ça veut dire que tu as la réponse. Si tu dis, tu demandes pardon, donc il y a le pardon. Mais en même temps, il y a l'histoire.
Hazak.
Dans le rêve.
Hazak.